La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Centrafrique.
Vendredi, dans le cadre du festival Au Conte d'ailleurs, le château de Montaigu propose une soirée Conte du Monde et dégustation insolite. Un festival placé sous le signe de la Belgique. Jean-Marc Biollet est l'initiateur de ce festival. Avec Christine Andrien, responsable de la Maison du Conte de Bruxelles, il nous présente cette soirée, ainsi que la conteuse belge qui se produira sur les planches vendredi, Marie-Noël Baquet. Jean-Marc Biollet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conteur et vous êtes à l'origine du festival Au Conte d'ailleurs qui fait une halte vendredi 27 avril et vendredi 4 mai au château de Montaigu. Comment vous est venue l'idée de ce festival ?
Parce que je suis un voyageur, j'adore voyager et puis je me suis rendu compte qu'on pouvait voyager aussi par l'intermédiaire des mots. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens, que ce soit des Belges, des Québécois, qui défendaient cette jolie langue qui est le français. Et que la meilleure façon de promouvoir son patrimoine, c'est le conte. Parce que les gens sont enracinés dans leur coin, dans leur région, dans leur bout du monde, et qu'ils ont envie de communiquer par le biais du conte, parce que le conte, c'est, à la base, c'est les racines du terroir dans lequel on vit.
Quel est le principe de ce festival ?
Le principe de ce festival, c'est donc la rencontre, la convivialité. C'est le fait d'échanger, parce que quand on parle d'un échange, c'est un échange qui est à la fois aussi lié donc aux mots, aux histoires, mais aussi par rapport à la gastronomie, par rapport aussi à des expositions de photos, de peintures, la culture, tout ce qui peut être culturel. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces conteurs, au lieu de dormir à l'hôtel, comme si on faisait du théâtre ou n'importe quel spectacle, ils sont accueillis par des familles d'accueil pour accueillir donc ces conteurs qui viennent de Belgique ou de Martinique.
La conteuse là qui est accueillie vendredi s'appelle Marie-Noël Baquet. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle ?
Mais écoutez, c'est une conteuse formidable qui est très expressive, qui des contes vraiment enivrants, où à la fois on pleure, où à la fois on rit, qui est une belle personne. Et pourquoi on a choisi le château de Montaigu ? Parce que c'est un lieu magique. Ou en faire vibrer les pierres avec les voix de cette conteuse.
Et vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur elle ?
Ben écoutez, vous en dire un peu plus, je pense qu'il faut se déplacer, il faut aller la voir. C'est une conteuse qui est beaucoup expressive, qui a beaucoup de sur les mimiques. Ces histoires ont vraiment un lien avec le terroir. Et vous allez voir que c'est très pertinent et pour les gens qui aiment tout ce qui est des valeurs, tout ce qui peut être sensible, vont y trouver leur compte.
Alors pour ce spectacle, vous avez travaillé avec la Maison des Contes de Bruxelles ?
Oui, oui, tout à fait, qui est une maison qui est repérée sur la Belgique, qui font beaucoup de formations, qui sont en lien un petit peu avec tout ce qui concerne la francophone, tout ce qui est francophone. Et j'ai la responsable avec moi. J'ai la responsable avec moi que je vous passe.
Eh ben volontiers.
Je vous la passe.
Merci.
Allô ?
Oui, bonjour. Vous êtes
bonjour.
Christine Andrien et vous êtes responsable donc de la Maison des Contes de Bruxelles.
Une des responsables, on est deux en fait. Voilà.
Et vous pouvez nous parler un peu de cette Maison des Contes et de ce que vous faites ?
Mais oui, bien sûr. Donc la Maison du Conte fête ses 10 ans cette année. Et c'est un lieu à la fois qui accueille évidemment des conteurs, mais aussi où on donne beaucoup de formations à l'art de conter et à tout ce qui touche à l'oralité en général. Donc on y accueille un public adulte, mais aussi un public enfant, des écoles, on organise des balades contées, enfin voilà, tout ce qui a trait à l'oralité. On mène des projets aussi en partenariat avec l'étranger, comme la France, puisqu'on est ici, et puis aussi le Maroc et le Québec.
Et comment s'est mis en place le partenariat avec le festival Au Compte d'ailleurs ?
Eh bien écoutez, ce sont des rencontres, des hasards, des amis communs qui nous ont présentés et on s'est entendus et on trouvait que c'était un projet qui pourrait convenir à nos deux associations. Et on s'est dit, ben lançons-nous, allons-y. Nous, on accueillera plus que probablement nos amis des Midi-Pyrénées en 2013, en octobre 2013, lors du festival qu'on organise tous les deux ans à Bruxelles, qui s'appelle Bruxelles, ça compte. Et donc ça sera l'occasion de faire un focus aussi sur la région Midi-Pyrénées. Voilà.
Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la conteuse qui va se produire vendredi, Marie-Noël Baquet ?
Sur Marie-Noël Baquet, bien sûr. Elle travaille à la Maison du Conte de Bruxelles également. Et donc, c'est une jeune personne, mais comme vous, elle est assez jeune, elle commence, elle débute, mais elle a beaucoup d'énergie et elle est très expressive, très personnelle. Elle a une personnalité très, très intéressante. Voilà, donc elle est. On travaille en équipe, donc que vous dire de plus ? Elle va vous présenter des contes, je pense, plutôt d'origine, enfin plutôt du Sud, et elle va vous emmener dans des aventures extraordinaires, des histoires d'amour.
Ah, c'est formidable.
C'est bien ça.
Ah, c'est bien, ouais, c'est très,
voilà.
Très bien.
Ah. Voilà. Et donc vous verrez, c'est vraiment une belle personnalité.
Et alors, moi, j'ai une question. Oui. Comment est-ce qu'on devient conteur ou conteuse ?
Alors, je pense que pour chacun, c'est un peu un trajet personnel. Moi, mon histoire à moi, ce sont des rencontres avec la parole. Je me suis un jour posé la question de savoir, tiens, pourquoi est-ce que j'aime raconter les histoires ? Puis j'ai été un petit peu plus loin. J'ai suivi des formations, j'ai fait des rencontres, mais j'avais pas dans l'objectif d'être conteuse au départ. Je pense que je vais vous repasser Jean-Marc, parce que lui, il a un autre parcours très intéressant, je trouve.
D'accord.
Voilà, je vous le passe.
Merci à vous. Hein.
Alors, à bientôt.
À bientôt.
Allô, oui.
Oui, donc je posais la question à Christine Andrian.
Oui.
Comment est-ce qu'on devient conteur ou conteuse ?
Eh bien, moi, j'avais une carrière de sportif, donc beaucoup, beaucoup de sport, beaucoup de performance, toujours à la recherche de la performance. Et puis, un jour, j'ai fait une belle rencontre au Népal. J'ai rencontré un moine tibétain qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous cherchez ? Moi, ce que je cherche le bonheur. Il dit, vous cherchez le bonheur ? Vous pouvez penser à un poisson qui dit « je meurs de soif ». J'ai déjà vu un poisson mourir de soif. Donc, j'avais fait un super sommet, un sommet de 7000 mètres d'altitude, et je devais rentrer donc en France, et au lieu de garder le souvenir de cette performance physique qui était le sommet qui faisait 7000 mètres d'altitude, ce que j'ai gardé, c'est la phrase de ce moine tibétain qui m'a dit « tu peux penser à un poisson qui dit « je meurs de soif ». Et je me suis rendu compte que les mots, c'était la meilleure façon de pouvoir s'exprimer, la meilleure façon d'aller vers les autres. Et donc, c'est ça que je crois qui a été vraiment le déclic pour devenir un conteur. Et donc, je me suis intéressé aux contes à partir de ce moment-là.
Et vous en écrivez vous-même ou vous dites des contes
Non, oui, ce sont des histoires que j'écris. Mais je dois avouer qu'aussi, dans ma famille, j'avais mon grand-père qui comptait aussi, qui a raconté des histoires dans son petit café au fin fond des Pyrénées. Et que ça m'a inspiré et que ça m'a donné envie, après, de reprendre la relève.
Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose ?
Mais je vous souhaite de venir à cet endroit qui est un endroit magique, qui est vraiment ce château. Moi, j'ai eu le coup de cœur l'été dernier lors d'un festival de théâtre, parce qu'il y a une équipe très dynamique qui est sur place et qui a vraiment le sens de l'accueil. Donc déjà, le lieu, il est magique en soi. Et ensuite, ces conteurs qui vont venir de Belgique et de Martinique vont vous enchanter donc ce château. Voilà, c'est un lieu magique, une rencontre avec l'émotion et avec donc deux pays, qui est la Belgique et la Martinique.
Jean-Marc Biollet, ben merci beaucoup.
De rien.
Et puis donc à vendredi. Ce spectacle de contes sera précédé d'un repas médiéval. Tiphaine Vetter, chargée de l'animation et de la communication au château de Montaigu, détaille le menu et le déroulement de la soirée.
Donc la soirée de vendredi sera donc sous le signe des contes belges. Et pour accompagner cette conteuse, puisque c'est une femme, nous organisons un repas médiéval. Voilà.
De quoi est composé ce repas médiéval ?
Donc le repas médiéval, c'est plus une assiette médiévale qu'un repas à part entière, puisqu'on aura un plat principal et un dessert. Et donc pour le repas, on s'est tout simplement inspiré de livres de recettes médiévales. Donc le repas sera composé d'un riz au safran, qui accompagnera un filet de porc à la sauce abricot. Au Moyen-Âge, on a beaucoup de plats sucrés salés, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et beaucoup d'épices. puisque le sel étant très très cher, on remplaçait par d'autres épices. Et le dessert sera un taillis aux raisins et aux pommes. Pareil, spécialité médiévale.
Cette soirée, elle débute à quelle heure ?
Alors, on commencera à accueillir les gens à partir de 19h pour la partie repas. Un petit bar aussi sera mis en place. Et pour la soirée compte, on commencera à accueillir les gens à partir de 21h pour un début de soirée à 21h30. Le repas risque d'être animé, donc là c'est laissé complètement à la liberté des compteurs qui animeront le repas un peu à leur guise, en fonction de l'ambiance, de leur motivation du jour. Musique, petite histoire, voilà, ce sera vraiment à leur feeling.
Est-ce qu'il faut réserver pour cette soirée ?
Alors, il faut réserver pour les repas, obligatoirement, puisqu'on a une capacité d'accueil pour les repas qui est assez faible. Donc, on réserve les repas et après, pour la soirée compte, non, là, a priori, on pourra accueillir tout le monde.
Le tarif est de combien ?
Pour la soirée repas plus compte, les adultes sont à 15€, les enfants à 10. Et pour les comptes seulement, donc à partir de 21h, 8€ pour les adultes, 4€ pour les enfants.
Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose ?
Oui, les gens peuvent très bien aller consulter notre site web sur lequel on essaye de mettre toujours un peu plus de vie et communiquer sur ce qui se passe au château de Montaigu. On essaye aussi de mettre en avant tout ce qui peut se faire autour du château parce que nous faisons des visites au château, mais on a aussi plusieurs autres bâtiments qui peuvent se visiter et puis surtout beaucoup de randonnées autour de Montaigu. Et pour ceux qui ont envie de passer une journée en famille et profiter à la fois du patrimoine bâti et du patrimoine naturel, venez nous voir.
Merci beaucoup Tiffaine Vetter.
Avec plaisir.
La soirée Contes du Monde et dégustations insolites, c'est vendredi au château de Montaigu avec la conteuse belge Marie-Noëlle Baquet. Il est nécessaire de réserver pour le repas. Pour plus d'infos, www.château-de-montaigu.jimdo.com. Et on retrouvera ce festival de Contes du Monde la semaine prochaine pour une soirée placée sous le signe de la Martinique.
CD de la semaine. Le CD de la semaine.
Le CD de la semaine.
Sur Radio Saint-Taf.
Un grand cheval aux yeux gris s'est égaré cette nuit, son galop à peine ralenti par la pluie torrentielle qui fait craquer le ciel de Paris. Oh, ah, qu'elle est belle à minuit, dans sa robe en étincelle, la tour Eiffel, moi je crois, qui cavale pour elle, ce cheval aux yeux gris. Ah, qu'il est beau au galop, le grand cheval aux yeux gris, quand près du Trocadéro, il ignore tous les badauds qui lui chantent symphonie pour klaxonne sous la pluie. Quand minuit 10 est passé, sa belle s'est désallumée, dans son élan ses sabots ont glissé sur la chaussée détrempée. Son corps s'en est encastré contre les pieds élégants de sa métallique dulcinée. Le lendemain à midi, le grand cheval aux yeux gris gisait encore le corps recouvert de rosée. On aurait dit, personne n'osait approcher, son immense carcasse est entrée. Les enfants voulaient lui parler, les parents le photographier, les femmes. Il est beau au galop, le grand cheval aux yeux gris, quand près du Trocadéro. chante symphonie pour klaxonne sous la pluie.
Le grand cheval aux yeux gris, une chanson de Dionysos extraite de l'album Bird and Roll. Petit message extraordinaire. Notre chère Audrey s'apprête à enfourcher son très très grand cheval aux yeux gris. Elle part loin, loin dans la steppe avéronaise. Et comme elle dit, Dionysos, rien à dire, c'est trop de la boulette. Bird and Roll, un CD de la semaine que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet de Radio Saint-Afrique.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur africain qui est à la fois très connu et je pense un peu méconnu quand même, parce que les auteurs africains, on les connaît pas très bien en France et en Europe, je pense. Donc, il s'agit d'Amadou Ampateba. Qui est né en 1900 et qui est mort en 1991, donc qui a quand même vécu une très longue vie et qui est très connu surtout pour ses mémoires, donc qui sont parus en deux tomes en France, Amunkel, l'enfant Peul, et puis mon commandant. En fait, donc Amadou Ampateba, il a été à la fois un écrivain, mais aussi un ethnologue. Et il faisait partie de ce qu'on appelle le peuple Peul. Il est né en fait dans le pays d'Ogon, donc au Mali, hein, voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui faisait partie d'une famille noble. Donc sa famille, c'était des nobles. Mais sa mère, elle a quitté son père très rapidement. Et en fait, il a été aussi très vite récupéré par les colons. Donc il a été envoyé à l'école française et en fait il s'est sauvé parce que ça lui plaisait pas, il a été repris. Enfin, il explique tout ça dans son parcours, dans le premier tome de ses mémoires. Et c'est quelqu'un donc qui était à la fois qui avait une très très grande culture, et puis c'est quelqu'un qui s'est attaché tout au long de sa vie à récolter un peu toutes les traditions, toutes les cultures d'Afrique noire. Tout ce qu'il a vraiment énormément noté. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé aussi dans les instances internationales. Il a travaillé à l'UNESCO, il a travaillé aussi avec Théodore Monod. Donc il servait à la fois d'écrivain public et puis aussi de secrétaire, hein. Et en fait, il s'est, dans la deuxième partie de sa vie, s'est vraiment consacré à l'écriture de ses mémoires. Et ses mémoires, en fait, c'est vraiment restituer un peu toutes les anecdotes, tout ce qu'il avait pu tous les renseignements qu'il avait pu emmagasiner pendant toute sa période où il a travaillé dans l'ethnologie, hein. Et c'est quelqu'un donc vraiment qui essaye de restituer un petit peu une tradition, la tradition orale de la littérature africaine. C'est un peu, on parle de lui en tant que griot, mais c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a voulu prendre à une époque charnière, puisque il est né en 1900, donc c'était vraiment l'époque du plus fort de la colonisation et puis ensuite de la fin des colonies. Et donc en fait, il a essayé de restituer un monde qui était mort, puisque c'était le monde des grandes tribus, puisque il a été, donc lui il est de l'ethnie Peul, mais il a été aussi élevé par les Tout-Couleurs, enfin ensuite il a été à l'école coranique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a eu un parcours vraiment très particulier, puis en même temps qui lui a fait avoir des expériences très multiples. Et c'est en ça que son parcours est intéressant, et c'est en ça que ses mémoires sont vraiment très très intéressantes. Puis en plus il a un style, enfin on va en lire un peu quelques extraits. Il a un style vraiment très drôle, donc c'est très picaresque, hein. Et puis on apprend énormément de choses, quoi, sur ce monde africain, les tribus, les peuls, les Tout-Couleurs. Enfin bon, c'est vraiment passionnant pour ça. Donc si vous voulez, on va lire quelques extraits. Je crois que c'est encore le mieux. Voilà, il y avait juste une petite citation que je voulais mettre avant vraiment de rentrer dans les extraits des bouquins, parce que je trouve que c'est quand même, d'abord ça montre bien ce qu'il essaye de faire, et puis voilà la façon dont il écrit les choses. Alors c'est une petite citation. « En Afrique traditionnelle, l'individu est inséparable de sa lignée qui continue de vivre à travers lui et dont il n'est que le prolongement. C'est pourquoi, lorsqu'on veut honorer quelqu'un, on le salue en lançant plusieurs fois non pas son nom personnel, ce qu'on appellerait en Europe le prénom, mais le nom de son clan. Ba, ba, ou Diallo, Diallo, ou Sissé, Sissé. Car ce n'est pas un individu isolé que l'on salue, mais, à travers lui, toute la lignée de ses ancêtres. Voilà, donc je crois quand même que c'est... j'avais envie de mettre ça un petit peu en exergue avant de lire les d'autres extraits, parce que, en fait, c'est tout à fait ça, quoi. C'est à travers sa propre vie, puisque, bon, c'est son histoire à lui qu'il raconte, à travers sa propre vie. Il le fera aussi dans le Destin de Vengrin, qui est aussi un conte qu'il a écrit, donc qui reprend quelques éléments de son histoire, mais qui est un personnage dont on ne sait pas trop bien s'il a existé ou si c'est lui qui l'a inventé. Et en fait, dans ce personnage-là, c'est à travers un personnage comment on parle de toute l'Afrique, et en fait, les gens qui sont morts, enfin, tout le passé, et puis aussi le présent. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans toutes ces mémoires, c'est aussi la confrontation avec l'homme blanc, quoi, la façon dont lui, il présente ça. C'était quelqu'un qui était assez rebelle, hein, et la façon dont il présente ça, la façon dont il a fallu qu'il s'accommode aussi de la culture occidentale, comment et aussi ça l'a enrichi certainement, et c'est ça qui est intéressant, quoi. Dans tout son parcours, c'est ça qui ressort. Donc voilà, donc maintenant je vais lire quelques extraits. D'abord, je vais lire un extrait de Amkoulol, l'enfant Peul. Ce n'est pas pour rien qu'on a surnommé Mopti la Venise du Soudan. Toutes ses activités sont plus ou moins liées à la vie du fleuve et au rythme de ses crues. Les Bozo, qui sont les plus anciens occupants du lieu, fabrique à la main ces longues et merveilleuses pirogues que l'on voit fendre silencieusement les eaux et dont certaines sont capables de transporter des tonnes de marchandises. Peuple de pêcheurs et de chasseurs, ils sont les maîtres de l'eau traditionnelle de toute la région. Dans cette zone de confluence des eaux noires et des eaux blanches, on rencontre des ethnies de diverses origines, des plus claires aux plus sombres. Après les Bozo, les plus anciennes sont les Songhai et les Peul. Les Bambara et les Dogons n'y sont venus que plus tardivement. Toute la région de la boucle du Niger constituait autrefois, dans sa partie ouest, un véritable réservoir des richesses du pays en matière d'agriculture, d'élevage, de pêche et de chasse, sans parler des traditions religieuses et culturelles. L'homme y vivait à l'aise et l'artisanat traditionnel y était particulièrement développé. Le Massina, où les Peuls vinrent se fixer jadis en raison de la richesse de ses pâturages, est situé au cœur de cette région, dont Mopti est l'un des fleurons. Voilà, donc ça, c'est un court extrait de Amkoulol, l'enfant Peul. Et donc, voilà, là, on retrouve un peu les notes de l'ethnographe, la façon dont il présente les peuples, la façon dont il arrive à faire un compte-rendu un peu à la fois de ce qui a existé, de ce qui est aujourd'hui et la façon dont les gens vivent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au cours des mémoires, on rencontre, il y a plein de personnages qui sont absolument... Enfin, si, bon, d'abord, il y a le personnage du héros, donc qui est lui, hein, enfin, qui est son propre personnage, mais aussi le personnage de sa mère, qui est un personnage tout à fait étonnant, qui n'est pas du tout une femme soumise, comme on a cette image-là. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a choisi sa vie, qui change de mari, enfin, qui s'occupe de ses enfants. Et puis, il y a aussi le personnage de son grand-père, il y a le personnage de son beau-père. Enfin, donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la fois, il y a des notifications ethnographiques qui pourraient être un peu rudes, enfin, parce que chaque livre doit faire à peu près 400 pages, donc ça pourrait être un peu aride. Et en fait, non, parce qu'il y a des personnages tellement riches en couleurs, avec tout ce qui peut leur arriver, tout ça est tellement que c'est aussi un roman d'aventure, c'est ça qui est intéressant. Donc maintenant, je vais vous lire un petit passage de « Oui, mon commandant ». Donc, puisqu'ensuite, après, il a travaillé pour le colonisateur, il a été aussi dans l'armée. Donc, il raconte un petit peu, ça, c'est la suite de son enfance. Et là, on voit vraiment la confrontation entre le petit Africain et les colonisateurs. Voilà, donc là, ça reprend, c'est juste en fait le tout début de Oui, mon commandant. Portée par le courant, la pirogue avançait rapidement vers l'est, sur les eaux du grand fleuve qui semblait s'ouvrir en deux devant elle. Les eaux étaient si claires qu'on y voyait évoluer les poissons jusque sur le fond, comme dans un aquarium. Derrière nous, à l'ouest, le panorama de coulis coraux s'estompait. Les berges hautes, les arbres, les dunes de sable, le monticule derrière lequel avait disparu la silhouette de ma mère, tout semblait se précipiter vers l'ouest au secours de coulis coraux qui s'enfonçaient dans le vide. Durant une bonne demi-heure, les percheurs restèrent muets. Sans la régularité de l'ample mouvement qui tordait les muscles de leur corps, on aurait pu les prendre pour des statues de bois d'ébène. Soudain, perçant le grand silence dans lequel nous étions plongés, une voix puissante s'éleva. C'était l'un des piroguiers, virtuose de la chanson « Bozo » qui venait d'attaquer « Bourou Demdé », un air d'encouragement au travail. Sa voix semblait emplir l'espace et rebondir sur la surface des eaux. Ses camarades lui répondirent par un refrain qu'il reprenait en chœur à la fin de chaque couplet. Cette musique joyeuse, dont le rythme s'accordait au balancement de la pirogue, paraissait accompagner les eaux du Niger dans leur descente vers la mer. Voilà, donc là c'est aussi un court extrait de « Oui, mon commandant ». Et encore une fois, ben voilà, on se retrouve tout de suite, ça c'est tout, le tout début du livre, et on se retrouve tout de suite plongé, enfin on a l'impression qu'on y est, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment, enfin moi je conseille ceux qui veulent découvrir vraiment l'œuvre d'Amadou Hampâtéba, c'est de commencer vraiment par ces deux tomes de mémoire. Donc « Amkoulol, l'enfant Peul » et oui, mon commandant ». C'est pas « Oui, c'est « Oui, mon commandant ». Et parce que vraiment ça donne une vision à la fois de sa vie, puis une vision de l'Afrique qui est tout à fait passionnante. Alors on les trouve en fait en Actes Sud Babel, hein, c'est en poche, donc ça coûte pas très cher. Voilà.